Donc, Véronique m'a transmis un peu la ligne, suivre Jésus tous les jours avec l'idée de mission. Et moi, j'ai proposé de le faire en regardant pas mal de parties dans l'épître aux Thessaloniciens, la première épître aux Thessaloniciens. Donc, s'il n'y a pas d'erreur, c'est en deux fois. C'est ça. C'est-à-dire ce soir et puis en novembre. Donc je prendrai des parties dans, en gros, les trois premiers chapitres de 1 Thessaloniciens. Donc, je propose de lire premièrement les versets 2 et 3. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous et faisons mention de vous dans nos prières. Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu notre Père de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Clairement, il y a, dans ce qu'on vient de lire, l'idée, la réalité plutôt, de tous les jours. Ça, c'est incontestable. Alors déjà, en plus, c'est marqué continuellement, c'est marqué sans cesse, mais aussi, l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, ça m'enseigne que tous les jours, ce n'est pas premièrement une question de programme, comment dire, de prévoir, de projet, enfin, de remplir un agenda, si vous voulez, un emploi du temps, mais que le fait de le suivre, parce que tout ça, c'est en notre Seigneur Jésus-Christ, le fait de le suivre, est produit par la foi, par l'amour, par l'espérance. Donc, ce n'est pas par hasard qu'il y a ces trois. Hein? Voilà. Et aussi que ce suivi, il est inévitablement, s'il s'agit de la foi que Dieu donne, de l'amour que Dieu, que son esprit verse en nous et de l'espérance que Dieu a indiquée, inévitablement, il y a des œuvres. Et alors, c'est remarquable cette répétition, évidemment volontaire, l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, et puis la fermeté de votre espérance. On le développera davantage dans l'étude suivante, avec au chapitre 5, prier sans cesse. Mais déjà ici, qu'est-ce qui fait que c'est tous les, si vous voulez, tous les jours, il faut d'abord le comprendre comme, je viens de le dire, produit quelque chose, une fidélité, une persistance qui est produite par la foi, l'amour, l'espérance. Et en fait, entendre tous les jours comme de la persévérance d'abord. Et s'il y a, et quand on, voilà, tout de suite, je ne dis pas plus là-dessus. Ah oui, j'ai oublié de préciser que ça ne serait pas forcément dans l'ordre que je prendrais les lectures. Donc maintenant, je propose d'aller au verset 9 et 10, puis après on reviendra sur si c'est 6 et 8. 9 et 10. On raconte un autre sujet, donc Paul, Timothée, Sylvain et d'autres sans doute, on raconte un autre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous. Autrement dit, comment l'évangile a été reçu chez vous, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Je reviendrai sur On raconte, mais sans doute ici, la première chose à relever, c'est que ces deux axes, si vous voulez, la conversion à Dieu, elle produit deux axes. Servir Dieu et attendre son Fils. Et c'est ça, c'est sur ces axes-là qu'on est persévérant, que c'est tous les jours. Je ne m'arrête pas sur le fait que la conversion implique se détourner des idoles. Et en fait, si, je dis ça, mais c'est n'importe quoi, parce que je m'y arrête 30 secondes pour rappeler que se détourner des idoles, ce n'est pas juste une fois quand on se convertit, et que ça peut être. Alors, j'espère que ce n'est pas tous les jours nécessaire, mais sinon, ça veut dire qu'on retombe toute l'éveil. J'espère que ce n'est pas nécessaire tous les matins, sinon ça veut dire que tous les soirs on est retombé dans une idolâtrie. Mais voilà, en tout cas, ce n'est pas une fois dans la vie. Voilà. Servir le Dieu vivant et vrai, c'est parce qu'il est vivant et vrai qu'il y a un service est généré et produit. Et c'est parce que Jésus-Christ ressuscité est son Fils, ou Jésus-Christ son Fils ressuscité, c'est pour ça que l'attente du jour de Christ est généré par son esprit. Et en vérité, et pas seulement parce que ces derniers temps, je suis beaucoup, beaucoup sur les textes qui parlent d'attendre Jésus, sur l'eschatologie, pas seulement pour ça, mais quel plaisir de relever que suivre Jésus tous les jours, c'est forcément produit par le jour. Le jour de Christ. D'accord? Pas le jour du mardi, du mercredi, du jeudi. Ce que je vis mardi, ce que chacune, chacun a vécu ce mardi, ce que Dieu a produit dans ces journées avec les témoignages entendus et d'autres choses bien sûr qui n'ont pas pu être dites maintenant, ce sont comme des arts du jour de Christ. En tout cas, un témoignage au jour de Christ. Alors, je reviens sur le mot on raconte. Je sais pas comment dire, une tonalité qui occupe pas mal de place dans ce premier chapitre. Et on va encore mieux le voir avec les versets 6, 7, 8. Mais on raconte. Ça veut dire que sans, parce que suivre Jésus, quelquefois c'est loin. Paul, Silas, Timothée sont allés loin, loin, loin. Et là, ils sont en Europe, enfin, ce qu'on appellera plus tard l'Europe. Ils sont allés loin. Les Thessaloniciens, ils sont allés nulle part. Ils sont restés à Thessalonique. L'épître commence comme ça d'ailleurs, hein? L'église des Thessaloniciens. Mais leur témoignage est allé loin. On raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu pour le servir. Et je voudrais dire, et ça me touche beaucoup, cette réalité que Suivre Jésus vaut témoignage. Voilà. Mon premier témoignage, c'est que je suis son disciple, c'est que je le suis. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que le fait de le suivre tous les jours, c'est un témoignage. Et ça, vaut témoignage au sens concret, c'est qu'il y a des répercussions, il y a des échos, il y a de l'impact, il y a, etc. D'accord? Verset 6. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur. Recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Donc clairement, ce verset ne parle pas uniquement du premier jour ou les premières semaines où ils ont reçu la parole, mais au milieu de beaucoup de tribulations, ça dit clairement qu'il y a du temps qui passe. Alors ce n'est pas beaucoup de temps, hein. Paul a pu rester sans doute pas plus d'un mois à Thessalonique, il a été chassé par la persécution, et il leur écrit, les deux épîtres d'ailleurs très proches l'une de l'autre, il leur écrit dans l'année qui suit. Donc l'Église est toute jeune, tout le monde est nouveau converti là-dedans. Et voilà, on est d'autant plus impressionné par on raconte, hein, le verset précédent. Bon, ok, non, je reste dans l'ordre, je lis. Vous êtes devenus nos imitateurs, mais bien évidemment que c'est peu à peu. Bien évidemment que c'est tous les jours. Si tu enlèves la notion de tous les jours avec Jésus, tu ne deviens pas imitateur. T'intègres des données, mais en gros, tu restes qui tu es. Quant à la manière d'agir, je veux dire, hein? Parce que quand tu es né de nouveau, tu restes pas tout à fait qui tu es, hein? Voilà. Au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie de l'Esprit Saint. Il n'y a que Dieu pour réussir ces deux choses ensemble. Ainsi, vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe, c'est-à-dire la partie sud de la Grèce. Car, Achaïe, hein, Macédoine, c'est son nom. Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. On raconte à notre sujet, etc. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai proposé de lire Thessaloniciens. C'est prodigieusement encourageant. Alors, d'autant que c'est tous des gens convertis. C'est tellement encourageant. Voyez, verset 6, vous êtes devenus nos imitateurs. Et puis, en tout cas, pas si longtemps que ça après, vous êtes devenus un modèle. Et modèle, alors modèle, ça ne veut pas dire exceptionnel, sans comparaison, absolument hors du commun. Non, modèle, ça veut dire qui est digne d'être imité. Et ils sont modèles en quoi? En suivance de Jésus. Ils sont modèles dans le fait qu'ils ont cru et que tous les jours, ils suivent, ils apprennent, ils prient, et donc ils œuvrent, ils travaillent, ils sont fermes dans l'espérance, ils persévèrent, et on va voir encore plein de belles choses après. D'accord? Voilà. Et donc, par rapport au verset 8, la parole du Seigneur a retenti de chez vous. Donc, ça veut. Alors, on ne sait pas tout, hein. Peut-être que certains Thessaloniciens sont partis un peu plus au loin. Mais globalement, le verset ne signifie pas vous êtes tous partis en voyage pour prêcher. Mais signifie, voilà, bah, la parole de Dieu que vous avez reçue pour ce qu'elle est vraiment, on le lit au chapitre 2, c'est-à-dire la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez, la parole de Dieu qui est au milieu de, en vous et au milieu de vous, de là, elle a retenti. Voilà, ça s'est répercuté. Ensuite, dans le chapitre 2, les versets 3 à 6, Pardon, oui, c'est ça. Oui, 3 à 6. Nos exhortations ne provenaient ni de l'erreur, ni de motifs impurs, ni de la ruse, mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. Jamais, en effet, vous le savez, nous n'avons usé de paroles flatteuses, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres. Et pourtant, comme apôtres de Christ, nous aurions pu nous imposer. Alors, là, très rapidement, sans suivre Jésus, il y a plein de gens sur Terre qui tous les jours s'appellent à ce qu'ils poursuivent. Alors, quelquefois parce qu'ils ont des motifs impurs, quelquefois par cupidité, et quelquefois pour plaire aux hommes. Et quelle fidélité, avec des guillemets et sans majuscule, hein, quelle fidélité chez certains humains à faire ce qu'ils font, travailleurs, sportifs, artistes, ce que vous voulez, politiques, n'importe, savent, scientifiques, quelle fidélité pour plaire aux hommes ou par cupidité. Et voilà, je relève, je ne peux pas ne pas relever que Paul dit qu'ils vont être imités, c'est-à-dire suivre Jésus sans motif impur. Voilà, s'il y a des... je sais qu'après il y aura du temps pour remarques et questions, donc je ne m'arrête pas plus. Verset 9-10. Vous vous rappelez, frères, au pluriel, ce qui est un générique pour frères et sœurs, hein? C'est quasiment un hébraïsme là. Notre travail, vous vous rappelez notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre. Alors ça ne veut pas dire que. Le verset ne signifie pas que le chrétien n'a pas le droit de dormir la nuit. Hein? Nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous, nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, que nous nous sommes comportés d'une manière sainte, juste et irréprochable envers vous qui croyez. Voilà, pas plus là-dessus. C'est des choses qui ont été pratiquées sur la durée. Un mot très vite sur les versets, un peu en mettre en parallèle les versets 7 et 8 avec 11. 11 et 12, 7 et 8. Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Une nourrice prend soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Et puis 11, 12. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons exhorté, consolé, adjuré de marcher de manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et donc ces deux paires de versets, hein, 7, 8 et 11, 12, ils sont bien sûr enchâssés, articulés avec nuit et jour, etc. Et alors là, c'est encore encourageant parce que qu'est-ce qui fait que le chrétien persévère? Qu'est-ce qui fait qu'il continue à suivre Jésus? Eh bien, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu, etc. C'est aussi une part d'effort. Bon, il y a plein de choses. Mais aussi, parmi tout ça, il y a la tendresse fraternelle. Voilà. Tu persévères parce que tu aimes tes frères et sœurs Et tu persévères aussi parce qu'il y a des frères et sœurs qui t'aiment et qui, selon les moments, sont comme une nourrice ou comme un papa, comment dire, sans suramplifier l'idée de père spirituel, ce qui force les textes bibliques. Mais voyez, et Paul le dira au chapitre 3, il parlera de leur amour. Autrement dit, il peut arriver que je prie que Dieu me fortifie et me rende plus régulier, plus fidèle, plus persévérant, et que Dieu réponde à ma prière simplement, si je puis dire, en déversant plus d'amour dans mon cœur. Ou en déversant plus d'amour dans le cœur de tel ou tel de ceux qui sont dans la foi et qui sont dans ma famille, dans mon église, etc., dans d'autres églises. C'est trop beau. Le verset 13, je l'ai cité tout à l'heure, hein. Vous avez reçu la parole pour ce qu'elle est vraiment. La parole de Dieu. Alors, toujours dans le chapitre 2, quelques minutes sur les versets 1 et 2, puis 14 et 16, 14, 1, 16, 1 et 2. Vous savez vous-même, frère, alors je ne sais pas pourquoi en fait, mais ce sont des mots qui reviennent beaucoup dans les deux épîtres aux Thessaloniciens, c'est sans doute les épîtres où on retrouve le plus souvent ces mots. Vous savez, vous le savez vous-même, comme vous le savez, lorsque nous étions parmi vous, etc. Il y a une référence récurrente à la proximité, aux liens qu'ils avaient, mais aussi, vous savez, à ce que Dieu a fait avec eux. À noter en passant que c'est très probablement les premiers écrits de l'apôtre Paul, les deux épîtres aux Thessaloniciens. Très, très probablement les deux premières épîtres qui ont été écrites. Alors, vous savez vous-même, frère, au pluriel, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. On dit, wow, super, voilà, on l'a vu, hein, il y a eu du fruit, du beau fruit. Mais après avoir souffert et avoir été maltraité à Philippe, la ville, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Et puis verset 14-16, en effet, vous êtes devenus, frères, les imitateurs des églises de Dieu en Christ Jésus, qui sont dans la Judée, car vous savez, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes ce qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont eux qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent pas à Dieu, qui sont hostiles à tous les hommes. Ils nous empêchent de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. Ils ne cessent ainsi de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Alors, c'est les versets 1 et 2 et ceux-là, je les lis regroupés, simplement pour relever que Jésus, le premier, l'a dit, le Nouveau Testament est parfaitement clair là-dessus. Suivre Jésus implique, pas toujours, pas tout le temps, pas dans tous les lieux en même temps, mais implique difficultés, luttes et persécutions. Voilà, ce n'est pas une anomalie. Voilà. Après, le verset 14, parce que 1 et 2, on ne s'étonne pas beaucoup que Paul, Silas, Timothée et surmonter les épreuves et ils ont été battus, jetés en prison à Philippe, etc., qu'ils aient surmonté ça, qu'ils aient pris de l'assurance en Dieu et que dans la ville suivante, ils aient prêché l'évangile. On ne s'étonne pas vraiment quand on lit ça dans Actes 16 et 17. Mais il faut le verset 14 là. Je ne veux pas dire qu'on s'étonne, mais il y a lieu d'être admiratif parce que les Thessaloniciens ont été eux-mêmes très tôt persécutés. Et donc, ils sont devenus imitateurs de Paul et les autres pour mille choses, mais aussi pour la persévérance dans la souffrance. Voilà. Après les versets 15 et 16, bien entendu qu'il ne faut pas les sortir de leur contexte ici, leur contexte immédiat. Leur signification, c'est pour comprendre le sens, il faut lire Actes 17, versets 4 et 5, où quand ils arrivent, qu'ils prêchent l'évangile d'abord dans la synagogue, et qu'il y a beaucoup de juifs et de non-juifs qui croient, et qu'au bout de 3 sabbats, eh bien, il y a d'autres juifs qui, jaloux, font tout pour empêcher, et puis ils rameutent des gens, des mauvaises personnes, voilà. Lisez Acte 17, le début du chapitre, et c'est ça. Si vous voulez, donc il n'est pas question évidemment de sortir du contexte la phrase « Ils ne plaisent pas à Dieu et sont hostiles à tous les hommes ». Alors, je sais que dans l'histoire, ce verset, il a été méchamment exploité, mais ce n'est pas Paul ne dit Paul, c'est pas l'idée de Paul. Hein. L'idée de Paul, c'est juste qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu et qui est hostile aux hommes, c'est empêcher des gens d'entendre l'évangile et d'être sauvés. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà, je m'y arrête pas davantage. Si besoin, on pourra y revenir. Alors, quelle heure il est là? Oui, ça va à peu près. C'est un grand jour, mes frères et sœurs. Je ne vais pas déborder du quart d'heure qui m'a été imparti. J'ai dit quart d'heure? Des 3 quarts d'heure. Chapitre 3. Juste deux lectures. Verset 6. Qu'est-ce que j'ai mis, moi? 6 à 9? Je ne suis pas trompé. C'est bon. Non, je suis trompé, moi. Excusez-moi. Ah, si. Si, si, 6 à 9. Mais Timothée, donc les versets précédents, Paul dit que quand même, il est en souci pour les Thessaloniciens. Jeune converti, laissez-la, et en plus avec de la persécution. Voilà. Et donc, il envoie Timothée. Mais, en fait, il dit aussi qu'il voulait y aller, mais qu'il n'a pas pu. Timothée vient de nous arriver de chez vous. Il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi, de votre amour, du bon souvenir que vous gardez toujours de nous et de votre désir de nous revoir, désir pareil au nôtre. Ainsi, au milieu de toutes nos calamités et nos tribulations, frères, nous avons trouvé notre consolation à votre égard dans votre foi. Quand on réalise qu'il était en souci, que les semaines passaient, les mois passaient, il a envoyé Timothée, ça a pris je ne sais pas combien de temps, puis il est revenu. Et on voit, si vous voulez, ce genre de verset, on est un peu aux premières loges pour voir une église d'une part, une équipe de ministère d'autre part, qui justement, au long du temps, sont disciples de Jésus, serviteurs du Dieu vivant et vrai, faisant des disciples, etc. Et verset 12-13, que le Seigneur fasse, donc chapitre 3, verset 12-13, que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse, le Seigneur, qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient sans reproche dans la sainteté devant Dieu, notre Père, à l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints, c'est-à-dire tous ses anges en fait, dans l'ensemble de la Bible. L'avènement du Seigneur, c'est le mot parousie, hein, ça veut dire son arrivée. L'arrivée comme un roi qui arrive en majesté. Voilà, son arrivée, ça veut dire le retour de Christ. Et qu'il affermisse vos cœurs. Rappelons-nous dès le verset 3, Paul avait parlé de la fermeté de l'espérance. Bien entendu que c'est plein d'espérance qu'on peut continuer. Ne pas repartir en arrière, ne pas se laisser détourner. Hein? Qu'il affermisse vos cœurs. Et parce que l'espérance, la bienheureuse espérance, hein, titre 2, c'est l'apparition de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et je conclue là-dessus. C'est une répétition volontaire dans l'épître, mais du coup volontaire pour moi aussi, que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres, ou abonder et surabonder les uns pour les autres. Premièrement, il y a la priorité, c'est toujours l'amour envers et reçu de ceux qui sont disciples de Christ. Après, il est ajouté, et envers tous les hommes, dont le sens, de même que prier pour tous les hommes en élevant des mains, dont le sens est plutôt tout type d'homme, toute catégorie d'hommes, et pas forcément tous les hommes individuellement, c'est-à-dire ben, il y a 7 milliards d'hommes sur la Terre. Concrètement, on va pas faire dire à ce verset que mon amour envers les 7 milliards doit augmenter. On sort de la réalité concrète de la suivance de Christ. On bascule dans une abstraction purement théorique. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas grave. En tout cas, il faut toujours se méfier d'une idée qui, un peu poussée en avant, revient à avoir le même cœur pour ceux qui sont à Christ que pour ceux qui ne sont pas à Christ. Jésus le premier et le Nouveau Testament enseignent que Dieu fait une différence. Et il est normal que nous en fassions une. Et malheur à moi si je ne fais pas de différence entre ma femme et la femme du voisin. Et je suis un âne si je prétends que je dois éduquer les enfants de mes voisins comme je devais éduquer les miens. Vous voyez, dans le simple bon sens nous enseigne qu'il y a une différence. Et quand je suis à l'école, je n'accorde pas la même confiance à l'institutrice qu'à maman, ni aux camarades qu'à mes frères ou sœurs qui marchent avec Jésus. Alors, je ne parle pas de classe, je ne veux pas dire qu'il y a des hommes et des sous-hommes, enfin, vous comprenez, il ne s'agit pas de basculer dans la stupidité, mais voilà. Vous le savez, hein, le prochain dans la Bible entière et dans le Nouveau Testament, c'est quasi exclusivement les membres du peuple de Dieu. De rares emplois du mot, on trouve dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau pour quiconque, justement. Alors, ça ne veut en aucun cas dire qu'on n'aime pas les non-croyants et a fortiori, si Dieu nous envoie, faire d'eux des disciples. On y va plein d'amour. Mais une des énormes faiblesses de quelqu'un qui est tellement évangéliste qu'il mésestime l'Église locale, sa grande faiblesse, c'est d'investir finalement pas tant d'amour que ça vers les membres de Christ et la totalité vers les non-membres de Christ. Alors, béni soit Dieu que beaucoup deviendront membres de Christ. Mais voilà, ça c'est, je pense que c'est le genre de choses que de temps en temps je dois rappeler. Voilà, pour pas qu'on réussisse à nous vendre un évangile purement humaniste. Mais donc, je conclus là-dessus, hein, que le Seigneur fasse abonder et déborder et surabonder votre amour les uns pour les autres, parce que, évidemment, vous suivrez d'autant mieux le Seigneur. Amen. Alors, je l'ai débordé.
Merci Jean.
Merci beaucoup, Jean.
Un sujet toujours riche. On l'a jamais épuisé finalement. Je ne sais pas s'il y a déjà quelques questions, mais c'est bien qu'on puisse prendre un petit moment là pour ceux qui, voilà, qui ont des questions particulières sur ce passage ou connectées à la thématique. Hein, si ce n'est pas directement sur Thessaloniciens, ça va aussi.
Bien
Voilà.
sûr, bien sûr.
Moi, j'ai une petite question.
Oui.
Là, à un moment, là, tu as parlé du modèle. Vous avez
Oui.
été, connaît des modèles. Et en fait, je me suis dit, il a dit un modèle et pas des modèles. Et je me suis demandé si c'était parce que ce qui était plus important, c'est l'ensemble.
Amen, amen, 10 fois amen, 12 fois amen. Le 12, c'est le peuple de Dieu. Bien entendu, bien entendu. Merci de relever ça, hein.
Ouais, ça rejoint une question que je voulais poser, Jean, qui est ce texte, on voit qu'il est adressé en communauté, il est adressé aux Thessaloniciens. Est-ce qu'on doit en avoir une lecture forcément communautaire? Est-ce qu'on peut avoir une lecture très personnelle de tout ça et des recommandations et de ce qui est donné là-dedans? Est-ce qu'on doit rester sur un niveau communautaire?
Premièrement, oui. Oui, clairement, le vous, c'est un vous, c'est un pluriel en grec, hein, c'est pas voilà. Ce qui d'ailleurs trompe beaucoup nos frères et sœurs anglophones quand ils lisent you, eux ils lisent moi, a priori. Ceci dit, nous aussi, les Français, les Italiens et n'importe qui, on est dans une culture tellement individualiste que on pourrait trop vite revenir à une lecture personnelle. Alors, il n'est pas question de dire que parce que l'épître est clairement adressée au collectif, c'est forcer le texte que de le lire pour soi-même. Hein, je peux lire pour moi-même, ben voilà.
De toute façon, c'est chacun qui est fidèle.
Quand Paul dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour moi-même, je peux me remettre en question et dire, est-ce que je rends continuellement grâce à Dieu quand je me souviens de mes frères et sœurs de telle ville ou telle ville? Voilà, donc il exclut, enfin, il ne faut pas. Et voilà. Mais la remarque de Nadine, en fait, elle a initié ça. Majoritairement une lecture communautaire qui n'exclut pas une lecture personnelle. Et globalement, c'est la lecture à faire des évangiles, par exemple. C'est comme ça qu'il faut lire les évangiles. Alors, il y a des parties précises, ce qui est dit à Pierre, ce qui est dit à Thomas, bon, voilà. Mais globalement, c'est les disciples ensemble. Après, bien sûr, il y a une lettre à Philémon, il y a des lettres à Timothée. Voilà. Anne-Marie rajoute, évidemment que ce collectif est aussi produit par l'engagement de chacun. Mais, comme on l'a dit, l'engagement à suivre et pendant qu'on suit le Seigneur, cet engagement, il est aussi stimulé et entretenu par l'engagement de l'autre. Ça, c'est incontestable. Ça, c'est incontestable. Dans toute église locale, on le vérifie, ça. C'est remarquable quand même qu'il soit écrit que Christ, et même qu'il ait été prophétisé à l'avance, à l'insu de celui qui prophétisait, hein, un souverain sacrificateur, que Christ allait mourir pour réunir en un les enfants de Dieu. Donc, si vous voulez, il y a Christ est mort pour moi, et puis et Christ m'a aimé, mais il y a Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nos péchés. Oui.
Il y a
Voilà.
d'autres questions.
Ça peut être des objections, hein. Ça permet d'éclairer.
Ce qui me... C'est une question... Je sais pas si c'est une question directe, mais je suis encore une fois touché par l'amour que Paul exprime, et notamment au chapitre 3, c'est assez fort et bouleversant, quoi. Je veux dire, il prie nuit et jour, il a envie d'y aller, on sent qu'il
Oui.
déverse, et
Amen.
non, mais c'est vraiment beau de voir ça et touchant, et je me dis, voilà. Est-ce que ça devrait être quelque chose de la part des responsables envers l'Assemblée qui devrait peut-être se faire un peu plus souvent? Alors c'est vrai que là, Paul, il ne se place pas en tant que responsable de l'Église,
Oui.
mais quand même en ayant un regard de ben un peu de père, puisqu'il est à l'origine de cette Église. Et donc ouais, voilà, c'était juste, je me
Oui.
dis...
Et il exprime, quand
Voilà,
il parle.
il pose des mots clairs dessus.
J'ai des nourrices dans la Colombie mère, mais c'est littéralement ces nourrices, c'est-à-dire celle qui nourrit, qui voilà. Il parle de ça, il parle de tendresse, il dit comme un père, exhorter, consoler, adjurer. Je veux dire, cet amour, je pense que tout responsable peut progresser. Bon, que l'amour abonde dans son cœur. Mais aussi qu'ils le disent, qu'ils l'expriment. Alors, ce n'est pas simplement je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je pense qu'il faut le dire en église, il faut le dire au téléphone, il faut le dire. Mais aussi, voilà, Paul ne dit pas seulement on a de la tendance, il parle d'exhorter, de consoler, même d'adjurer, de marcher dignement. Donc, il est montré. L'amour est formulé. Exprimer, montrer. Ce que Jésus a fait dans la mesure parfaite.
Ouais, Jean, on le voit encore dans ce passage aussi, et on l'entend souvent, on le retrouve souvent dans ces écrits-là, la notion de tribulation, la notion de calamité, la notion d'adversité finalement, hein, dans la progression de l'Évangile.
Oui.
Ça m'amène une question là-dessus aujourd'hui, où je me fais l'écho de questions qui nous sont posées aussi, hein. Est-ce que le fait de ne pas vivre de tribulations particulières est une grâce du Seigneur en tant que communauté? Ou est-ce qu'elle est aussi un signe d'un manque d'engagement peut-être de l'Église dans la proclamation de l'Évangile qui conduit à de l'adversité ou de la tribulation? Je ne sais pas si tu comprends.
Tout à
C'est
fait.
ma question, ouais, voilà.
Tout à fait. Depuis le début, en fait, des premiers siècles, il y a eu une compréhension de la persécution un peu transcendée, surspiritualisée, à tel point qu'il y a eu un temps où des chrétiens recherchaient volontairement le martyre. Bon. Ce que tu dis, il va pas jusque-là, hein. Mais sans aller aussi loin, au long des générations, on entend, c'est-à-dire je l'ai entendu tout jeune déjà, et puis un peu plus mûr, et puis maintenant, et on entend par-ci, par-là, l'idée que une bonne persécution redynamiserait l'Église, ou bien, à contrario, que si l'Église n'est pas plus vivante que ça, c'est parce qu'elle n'est pas persécutée. Ça, c'est une idée qui séduit un peu, qui a une apparence de logique, mais qui force les textes bibliques, ou que les textes bibliques ne valident pas. Paul dit de prier pour qu'on puisse vivre en paix. Il dit de prier pour ceux qui sont en prison, qui sont persécutés, qui souhaitent de les soutenir, de les aider, etc. Donc, quand je dis, et je l'ai dit, puis ça m'est venu à la tête pourtant, mais je n'ai pas voulu faire une parenthèse là, j'en fais assez comme ça, mais quand j'ai dit que être persécuté ou rencontrer des épreuves difficiles, des calamités, n'est pas une anomalie, ça demande précision. Ce n'est pas une anomalie au sens où Dieu n'a pas promis à ses enfants que, évidemment, qu'ils seraient exempts de tout, voilà, toute douleur, toute souffrance, tout, voilà. Dans ce sens, on peut dire c'est pas une anomalie de souffrir et d'être persécuté. Ou au minimum d'être moqué, mal vu, calomnié, que sais-je. Évidemment, au regard de la volonté globale de Dieu pour l'être humain sur la terre, et donc incluant ses enfants, mais Dieu n'a pas dans sa volonté que l'être humain souffre. Lui-même, il le frappe. Des fois, la Bible est claire là-dessus. Il le châtie, etc. Il l'éprouve. Mais il y a une intention. Il y a, j'allais dire, c'est entre guillemets provisoire. Il le fait passer dans une épreuve. Hein? D'ailleurs, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais avec l'épreuve, Dieu donnera aussi le moyen d'en sortir. Donc, si vous voulez, de même que si voilà, s'il y a une pénurie de bois de chauffage et que tout le monde a froid, le païen a froid, le chrétien a froid, fondamentalement, Dieu, il veut pas que les humains ils souffrent du froid, il les fait quand même passer par là, mais il ne s'agit pas d'attribuer au froid la vertu qui n'appartient qu'à la souveraineté de Dieu. Si Dieu m'y fait passer, il y aura un bénéfice. Mais le froid pour lui-même n'a pas de vertu sanctifiante. Et donc, de même, la persécution n'a pas en elle-même une vertu disciplinante. Ce n'est pas français, mais vous avez compris. Voilà. Le seul point où l'idée, enfin, pardon, je suis peut-être un peu sans nuance, je ne sais pas si c'est le seul, mais en tout cas le seul que je vois tout de suite, et en tout cas le principal point où l'idée d'un rapport entre non-persécution ou non-opposition au moins, et fidélité insuffisante de l'Église, le seul point où il y a un rapport, c'est quand notre message est infidèle. Évidemment que si on ne prêche plus la repentance, si on laisse entendre aux gens que la perdition n'existe pas, etc., ben là, il y aura zéro opposition. Et on ne pourra pas vraiment dire, ces derniers 10 ans, Dieu n'a pas voulu que nous rencontrions d'opposition. Parce qu'on n'est pas fidèle au message. Si vous voulez, on prêche ce qu'on veut au lieu de prêcher ce que lui a dit de prêcher. Par contre, si on est fidèle, si le message est correct, et qu'en plus le vécu global de l'Église est fidèle, et que pendant 10 ans, il n'y a pas forte opposition et pas persécution, probablement qu'on peut dire simplement, ben, Dieu n'a pas voulu nous y faire passer maintenant. Il nous donne un autre chemin. Voilà. Est-ce que ça répond suffisamment?
Oui, très bien. Ouais, je suis vraiment en phase. Merci, Jean. Il nous reste encore un peu de temps. S'il y en a qui ont des questions ou des remarques ou des objections ou des compléments.
Oui, aussi complément.
OK. Bon, apparemment pas plus pour
Pour
ce
moi,
soir.
un petit complément, évidemment que dans les mots de tout ce qu'on a lu ce soir, c'est contenu dans les mots de Jésus, je suis avec vous tous les jours. Parce que tous les jours avec vous, dans tout ça, dans l'apprentissage, dans la fidélité, dans la souffrance, dans l'amour, dans le témoignage, dans l'imitation des apôtres, etc. Évidemment, je suis tous les jours avec vous. Voilà. Tout ça, c'est inclus dedans. Alors, qui c'est Huawei?
C'était Pascal.